C'est vrai que je me suis pas vraiment présenté, je pense que la plupart des gens me connaissent, mais malgré tout, je voudrais le faire, parce que c'est vrai que souvent quand les gens ils se présentent, ils donnent leurs qualités. Et je pense que c'est une erreur. Quand on se présente, il faudrait donner ses défauts. Comme ça, on voit si ça match entre nous. Alors je vais le faire, je vais donner mes défauts. Oui, c'est vrai, j'aime lire du Thomas Mann. Oui, j'aime les films d'Ingmar Bergman. Et je suis assez touché par la musique de Schumann. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est baiser des salopes. Et si. Et là, la culture, je m'en fous. Je demande pas ce qu'elle lit. Je demande même pas si elle sait lire. Non, mais pour vous dire à quel point je m'en fous, si pour terminer ma vie sur une île déserte, j'ai le choix entre Pamela Anderson et Marguerite Duras, c'est Pamela Anderson. Alors il y a toujours des gens qui me disent ah, elle est plus comme ça. Marguerite Duras non plus. Hein. Non, bon, l'écran c'est un peu le résumé du spectacle. J'aime bien dire ça parce que parfois les humoristes on vient les voir et on se souvient plus de quoi ils ont parlé. Moi j'aime bien que vous partiez avec quelques images. Tout à l'heure on a vu Rostropovitch. C'est de la grande culture. Ici on voit Pamela Anderson, c'est un autre genre. Donc voilà, par moment pendant le spectacle, on va apprendre des choses. Et puis de temps en temps, moi je glisse une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Important, on va à un spectacle bien équilibré. Il n'écoute plus rien ici. Tu ne me regardes plus, tu n'en as plus rien à foutre de moi. Enlève, on perd un client. Voilà. Hein. Ah voilà, voilà ce que tu as maintenant. J'en étais où ? Baiser des salopes, tu l'as bien su, mais oui, je vois que tu l'avais, c'est ça, et parlons de femmes, oui, alors ça n'a pas toujours été facile pour moi, je le dis, moi j'ai eu quelques amourettes, épiphanie, un 6 janvier, épiphanie, oh. Pour un humoriste, tomber sur une Fanny un 6 janvier, c'est des heures de rire. L'hôtel demande des explications, tu l'as pas eu, hein, épiphanie, ouais, faites un groupe de travail, Nous, on continue, et dès que t'es avec nous, tu relèves la main. Je t'avais mis pas loin, pourtant, je savais que tu venais, je me suis disponible. Bah, tu l'as, non. Non, mais voilà, avec Fanny, du coup, on a vécu une grande, belle histoire d'amour, malgré des blagues, jusqu'au drame. Elle a voulu un enfant. Moi, j'ai pas pu lui cacher longtemps une légère pédophobie. Très, très rare, hein, pour un Belge catholique. Et... C'est la blague qui cartonne le plus en France. Je vous demande pardon. En Belgique, il y a toujours une tension. Non, mais la pédophobie, c'est pas interdit, c'est une maladie, c'est les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur d'avoir des enfants, la responsabilité que ça représente. Et donc, j'ai essayé de la dissuader. Je dis, voilà, écoute Fanny, d'accord, on fait un enfant, mais toi, tu t'en occupes. Moi, je veux bien être le parrain. Les hommes, on est comme ça, quand on s'engage, on s'engage. Et en tant que par n'applaudis pas, tu es démasqué. À côté, elle pleure. Et donc voilà, j'ai continué parce que le parrain il peut choisir le prénom. Donc je me suis dit, je vais encore mettre une petite couche. Et j'ai dit, écoute, c'est très important pour moi, quoi qu'il se passe, je veux qu'on l'appelle Jean-Pierre. Je me suis dit, Jean-Pierre, il y a quand même 15-20 ans qu'on n'a plus trop entendu ce prénom. C'est très rare qu'on croise un ami avec une poussette. On dit, oh, il est mignon, hein, le gamin. On dit, ouais, c'est Jean-Pierre. On est dans le creux du Jean-Pierre en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne va pas revenir, mais là, il s'emmerde avec le Marie-Christine. Et, non, c'est vrai. Et donc, mais elle me dit, écoute, si c'est que ça, c'est bon. J'étais coincé. Et elle a eu raison d'insister, aujourd'hui, je peux le dire, parce que je suis devenu l'heureux parrain d'une petite fille et, bon, qui a juste quelques difficultés avec ce prénom Jean-Pierre. Mais... Moi, je suis comme ça, je suis carré. Bon, on va continuer l'art. On avait commencé par la musique classique. Maintenant, c'est peut-être une des parties que je préfère du spectacle, puisque nous allons parler d'art moderne, contemporain, conceptuel. Je serais toujours intéressant d'en débattre. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais je vous dis juste une chose. Toutes les œuvres qui vont être projetées derrière moi sont des œuvres qui existent. C'est mieux de le savoir avant. Vous allez vous poser la question à un moment... Tout est vrai, j'ai rien inventé, mais c'est moi qui les ai choisis. On y va, on va essayer de balayer presque une soixantaine d'années d'art moderne et contemporain. On attaque par un premier artiste. Voilà, oulala, voilà. Un type qui aujourd'hui aurait une photo de profil Facebook comme ça. On clique refuser comme ami, c'est direct. Mais ici, c'est un des plus grands artistes contemporains allemands, c'est Joseph Beuys. Joseph Beuys, il est connu en partie pour ses happenings. Happening, performance en français. Donc c'est l'acte physique qu'il est en train de faire, qui est filmé, qui est photographié, qui sera considéré comme une œuvre d'art. Et ce happening-ci est un de ses plus célèbres et s'intitule « Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort ?» C'est tout le titre, hein. Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort. C'est long, mais il y a beaucoup d'infos dedans. Hein. Donc, alors, certains ont l'air perplexes. Je vais essayer de vous montrer ce que ça pourrait donner. Donc, on s'imagine, hein, on est dans une galerie d'art, il y a des tableaux, et il y a notre ami Joseph qui se balade, le visage recouvert de miel et de poudre d'or. Voilà, normal. Et il se dit, je suis déjà pas mal. Mais je sens qu'il me manque, c'est rien, hein, mais... Et là, il réfléchit, et c'est vrai, ça tombe sous le sens, il manquait un lièvre mort. Et, ces gens ne pensent pas comme nous, hein. Et commence à lui causer, et il raconte un peu des trucs, on sait pas très bien, c'est pas clair sur la vidéo, mais moi, je peux vous dire une chose, parce que ça, je le sais, il faut déjà en fumer de la toute bonne... Si, parce qu'il faut déjà en fumer de la très bonne pour se mettre à parler spontanément avec un lièvre qui serait vivant déjà. C'est rare, hein, une fois qu'on a bien parlé carotte, c'est assez vite pénible, ça je peux vous le dire. Mais voilà. C'est long 20 minutes. Il y a des épisodes de Derrick plus passionnants que ça. Je vois dans le regard de certains, il y en a qui se disent « Mais bon Dieu, est-ce que c'est de l'art ?» Mais la question elle est bonne. À partir de quel moment c'est de l'art ? C'est toujours intéressant, c'est presque une question philosophique. Les deux premiers que j'ai montrés, certains ont aimé, c'est sûr, certains ont détesté, c'est probable, certains ont trouvé ça rigolo, certains ont trouvé ça ridicule, mais il y a eu une émotion. Et l'art, c'est peut-être juste ça. C'est un artiste qui propose et un public qui crée une émotion. Même du rejet, vous avez le droit. On est peut-être dans une émotion artistique. Allez, on se reconcentre. Bruxelles, vous êtes bien, vous avez un point. Je peux monter le niveau avec vous. On peut passer à la deuxième question, qui n'est pas facile. Hein. Il faut attendre la question. Je me bats depuis 10 ans pour monter le niveau de l'humour. Et là, vous vous marrez. On dirait le public d'Hanouna. Excusez-moi, mais... Vous êtes bien calmé, ça. Lequel des deux ? Il y en a qui me voient arriver. Quel des deux est une pipe ? Oui, mais j'ai dû grimer, parce qu'ils avaient mis la réponse, les cons. La pipe, c'est celui de... Autant le fauvisme, ça n'avait pas passionné tout le monde. Autant là, vraiment, on est sur une belle thématique fédératrice. Bien joué Bruxelles, je vous reconnais bien là. Fier de vous. Les Français à la télé vont dire, putain, on va vraiment habiter là, ouais. Excellente réponse, oui, évidemment. Mais il y a une explication artistique. Parce que moi, j'aime pas le grivois, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Déteste ça. Explication artistique sur le tableau. Tableau de René Magritte, évidemment, il y a la réponse. Mais qu'est-ce qu'il a voulu prouver, Magritte, le surréaliste? Avec ce tableau, il a voulu prouver au fond que c'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art et ce n'est pas une pipe. C'est pour ça qu'il a écrit dessus. Mais revenons au tableau tout blanc. Je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment ça se fait qu'en quelques centaines d'années, on passe de la Joconde, chef-d'œuvre absolu, à un tableau tout blanc ? Eh bien, j'ai fait des recherches. Et ce que je vous dis est absolument vrai. J'ai détricoté la pelote de la chrome, on va dire comme ça. Tout commence avec les impressionnistes, avec Monet, quand il peint ce tableau-là, Monet. Tableau qu'il appelle « L'entrée de Giverny sous la neige ». Tableau qu'il aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a la neige ». Et... Évidemment, il y a toujours un qui va me dire « Attention, Alex, c'est pas un achrome ». Excellente analyse, ce n'est pas encore un achrome à proprement parler, mais on sent quand même déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous conduit en 1915, il y a à peine 100 ans, en Russie, avec Malevitch. Malevitch qui peint ce tableau-là. Tableau qu'il appelle « Carré noir sur fond blanc ». Pas beaucoup plus honnête comme titre d'œuvre. Et voilà, moi, j'ai pas d'avis de nouveau. Je vous propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez, posez-vous les questions. Petite anecdote, ça c'est intéressant de le savoir. Sachez que Malevitch lui-même n'était pas hyper content de son travail. Et ça, je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Quand on regarde, on se dit, bon, il n'avait pas dépassé. Et donc, il s'est retiré, et c'est véridique, il s'est retiré, cloisonné chez lui pendant 3 ans. Il n'est pas sorti de son domicile pendant 3 ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre en Europe entre 15 et 18. Je vous laisse seul juge de son héroïsme. Mais en 18, il sort, il dit arrêtez tout, j'ai trouvé. Ah, Malevitch, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit j'ai compris, je vais faire plus sobre. Écoute, mec, non, c'est pas tant ça, nous, qu'on t'avait reproché jusque-là. Hein. Et si, je sais, j'ai plutôt faire carré blanc sur fond blanc. Voilà. 3 ans de réflexion. Vous en voulez de l'emploi fictif? Moi, je vous en dégote. Et là, il faut quelques années pour que Manzoni voit ce tableau et se dise, bah, tu sais quoi, je vais te le terminer, je vais te le peindre, le carré. Et boum, je te fais le tableau tout blanc, l'achrome parfait. Et là, début des années 50, on est en droit de se dire que peut-être on est arrivé au bout du bout. Eh bien, c'était sous-estimé. Lucio Fontana, grand artiste italien qui a suivi Manzoni, dont c'est l'idole à peu près, si vous voulez, et il veut faire mieux que son prédécesseur, et il réfléchit, il dit qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Je veux faire mieux, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Et il trouve, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Génial, génial. Et assez pratique à réaliser, hein, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à l'atelier à 9h pile, 9h20-25, il est à l'apéro avec les amis, le tableau est en train de sécher. Et là, dans la salle, normalement, les intellos de gauche se disent « Mais comment ça se fait qu'un artiste en vienne à vouloir traverser sa propre toile ?» Les gens de droite, là-bas, ils se disent « Mais combien ça vaut un truc pareil ?» Oui, mais les deux questions sont vachement complémentaires, il n'y a pas de jugement. Tout le marché de l'art fonctionne sur ces deux questions. Mais le gars est travailleur. Fontana, le lendemain, il est à l'atelier à 9h pile avec une nouvelle question. Il se dit « Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans ?» Tableau blanc avec... 3 coups de cutter dedans. Ah, les grands artistes, on les attend là et paf, ils sont là. Le lendemain, il revient à 9h et il dit « Qu'est-ce qui est mieux que 3, 6 coups de cutter dedans dans tous les sens ?» Sortez d'une soirée bunga bunga, j'en sais rien. Fantastique, c'est merveilleux. Ah non, non, mais ils se connaissent bien les deux. Manzoni, Fontana, c'est les deux stars avec une forme de succession dans l'art pauvre. Comment je vais comparer? On va dire c'est Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Voilà. Non, si, j'aime bien. Non, c'est important aussi que je fasse de temps en temps un petit peu un lien avec la culture populaire. Je me dis, on ne sait jamais s'il y a quand même des auditeurs de BLRTL qui seraient venus. Et vous sous-titrez Europe 1 en France. Et donc voilà, comme ils se connaissent, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, ben, il ne sait pas ce qui se passe. Mais un matin, il se dit, je vais aller voir mon pote, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Il se dit, je vais y aller pour 9h, hein, pour être sûr de ne pas le rater. Et... il ouvre la porte de l'atelier, il tombe là-dessus. Ouais, c'est une merde. Il est fort. Et il se dit, mais si c'est comme ça, moi j'arrête la peinture, je suis complètement dépassé. Je ferai jamais mieux que ça. Mais il accepte le challenge. C'est là qu'on voit les génies, il dit, c'est pas grave. J'arrête la peinture, mais attention, j'ai encore pas mal de bonnes idées. Et ça, quand il y a un gars capable de peindre un tableau tout blanc et qui te dit « Attention, j'ai encore pas mal de bonnes idées », tu sens que tu vas pas être déçu. Nous sommes en 1961, Manzoni se lance dans l'art plastique. Il crée une œuvre grande comme ça, qui va marquer l'histoire de l'art, et c'est ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'Italiens. Hein. Et à l'intérieur, c'est absolument ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90, numéroté de 1 à 90, 90, 30 grammes dans chaque.